Eh bien, bonjour tout le monde.
Bonjour.
C'est une grande joie pour moi de donner ce témoignage, d'autant que le Seigneur a fait tant pour moi dans toute ma vie chrétienne. Je suis passé par des chemins délicats, difficiles, mais c'est vrai que, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel l'en délivre toujours. Si le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Et ça, je peux vous dire que c'est une parole qui est vraie.
C'est vrai.
Alors, durant cette dernière année, eh bien, j'ai eu, comme tous les gens de mon âge, des petits soucis de santé. Eh bien, ça concerne l'arthrose qui s'est mise dans mes mains, dans ma main droite en plus. Cette main qui m'est si précieuse, ne serait-ce que pour écrire les choses de la vie, les choses de la vie courante, mais aussi les choses qui concernent le Seigneur, de pouvoir préparer les messages. Et si un pasteur n'a pas sa main, il a amputé quand même grandement. Alors, le matin, ça me prenait. Ça commençait par un doigt, deux doigts. J'avais du mal à les fermer, et puis ça s'est compliqué au fil des jours, et j'avais de plus en plus de mal à fermer mon poing. Et lorsque j'ai été à Ouaga, la fois dernière, vers le mois de juillet, eh bien avec la chaleur, les doigts gonflent, les pieds, les doigts gonflent avec la chaleur. Et quand je suis revenu, là ça a été vraiment un souci, parce que vraiment je pouvais presque plus fermer ma main. Mon poing droit, c'était devenu vraiment très délicat, c'était devenu très difficile. Et puis, il fallait faire les choses selon la bienséance, selon la prescription que notre Dieu nous demande. Eh bien, il nous demande tout simplement que le pasteur, qui est établi dans l'église, eh bien, prie pour les malades. J'ai donc demandé à Michel de le faire, et on a prié. Et j'étais assis à côté de Michou, les frères et sœurs étaient à côté, et il fallait vraiment que je libère cet index qui était complètement bloqué, et Michel a posé son doigt dessus, et clac, il s'est ouvert. Mais ça a craqué, et on l'a tous entendu, le bruit du ligament qui a craqué. Eh bien, j'ai eu mal, comme dirait l'autre, j'ai dérouillé. Hein. Donc j'ai mis de l'emplâtre américain, pendant 2-3 jours, je suis resté comme ça. Mais il fallait que ça craque. Comme ça, ça a permis de libérer, eh bien, les cristaux indésirables qui étaient tout autour. Et puis, Michel m'a dit, ça va prendre du temps. Il m'a dit, si c'est tout de suite, ben c'est un miracle. Si c'est pas tout de suite, ça sera une guérison miraculeuse. Bon, eh ben, prends ça, c'est bien, on part avec. Et puis, ben, tout doucement, c'est vrai, ça a mis 2 mois pour guérir. Mais la victoire, elle est là. Parce que je peux vraiment fermer le poing. Et c'est trop important de la main droite. Et je me rendais compte, en épluchant mes légumes à Ouaga, en faisant mes petits travaux de la vie courante, que toute la fonction revenait. Et bien, ça y est, victoire. Ah oui, je partais avec.
Merci Robert. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui fait ça. Hein. Comme je vous ai toujours dit, il y a des guérisons et il y a des miracles. Il y a deux dons dans 1 Corinthiens. Hein. C'est le don de faire des miracles et le don de faire des guérisons. Une guérison, ça peut prendre du temps. Donc beaucoup de gens ont prié pour eux, et puis comme ils voient qu'il n'y a rien qui se passe tout de suite, ils perdent la foi. Et ils perdent aussi leur guérison. Et voilà. Il ne faut pas perdre la guérison. Il ne faut pas perdre la foi. Il faut simplement dire, eh bien, on a prié pour moi une fois, ça suffit, on ne va pas prier 50 fois. Ça suffit. Et au nom de Jésus, après notre frère Robert, il a été guéri, ça s'est remis en place. Et vous savez, de l'arthrose qui part comme ça, ben, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Alors je vous exhorte, puisqu'on a entendu ce témoignage, ceux qui sont malades parmi nous, levez-vous et on va prier ce matin que vous ayez votre miracle ou votre guérison. Amen. Et vous qui êtes en train d'écouter ce message enregistré, eh bien de même, mettez votre main là où vous souffrez et je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Seigneur, je veux te prier pour le petit-fils de la sœur Michel. Je te demande, mon Dieu, d'étendre ta main sur ce petit enfant afin que cette chose qui est sur lui, sur son visage, disparaisse sans avoir besoin de chirurgie. Au nom de Jésus-Christ, que cet enfant soit délivré et guéri, que le mal disparaisse, que ce qui est là sorte par les voies naturelles au nom de Jésus-Christ et qu'il y ait une guérison ou un miracle, mais quelque chose qui vienne de toi. Et cela, Père, dans le nom de Jésus, que cet enfant ne souffre pas. Merci, Seigneur, d'étendre ta main sur Eric et sur chacun qui sont debout. pour ceux qui sont tous ceux qui sont debout là ici ce matin. Bénis-les. Donne-leur la guérison, Père, au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de guérison, l'archange Raphaël, au nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri maintenant. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Jésus, parce que tu fais cela pour chaque personne debout et tu leur donnes maintenant cette guérison. Nous te le demandons, Père, et nous luttons et nous chassons et nous pulvérisons ces maladies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous croyez ça? C'est bien, gloire à Dieu. C'est bien. C'est bien. Merci Seigneur. Dieu est tout puissant, il ne faut pas douter, il ne faut pas avoir peur. Quand la maladie essaie de nous faire peur, il faut lui faire peur aussi. Hein? Quand il m'arrive quelque chose, avant de m'endormir, je dis, moi je dors. Mais les esprits de guérison qui sont là au nom de Jésus continuent à taper sur le mal. Amen. Moi je dors tranquille, mais la guérison continue. Amen. Il faut croire des choses comme ça. La Bible nous dit qu'il y a des archanges. L'archange Raphaël est préposé aux guérisons. Vous le savez peut-être pas, mais il faut étudier. Hein, il faut étudier. Et quand on étudie, on apprend des choses. Et quand on apprend des choses, après, votre foi est plus forte. Vous croyez? Hein? Amen. Alors, je voudrais prier d'abord et puis ensuite apporter le message ce matin. Excusez-moi pour le message de vendredi. Il était, paraît-il, très compliqué. Alors, réécoutez-le, prenez une feuille, un dessin, faites un dessin avec un petit crayon, et vous allez comprendre en faisant un petit dessin, je suis certain. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'essaierai de parler un peu plus lentement, pour que ça soit moins compliqué. Non, ça ne va pas être aussi compliqué que vendredi. Seigneur mon Dieu, je te remercie, parce que ce matin, tu vas nous éclairer, tu vas nous montrer comment aimer nos ennemis. Comment aimer ceux qui nous font de la peine? Comment aimer ceux qui nous persécutent, qui nous ennuient, qui nous font du mal? Merci Seigneur Jésus de nous aider à cela. Nous en avons besoin Seigneur Jésus, parce que tu as dit qu'il fallait que nous aimions les gens, et même nos ennemis. Mais je confesse, et nous confessons tous, que sans toi, nous ne pouvons pas, j'y arrive pas. Et je te confesse cela, et je te demande Seigneur que tu m'aides. Et je sais que tu as déjà commencé à m'aider. Et je sais que tu vas aider mes frères et sœurs aussi au travers de ce que je vais leur dire. Merci Jésus. Amen. Hein, c'est pas facile d'aimer les casse-pieds. Hein, c'est vrai. Quand ils sont loin encore, ça va, mais quand on les a sous le nez toute la journée, c'est rigolo. Mais Dieu nous donne quand même ce commandement. Et vous vous souvenez que donc vendredi, je vous parlais du premier et grand commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et je vous disais que ces quatre choses-là sont les quatre principes, n'est-ce pas, qui doivent aimer Dieu, n'est-ce pas. Et donc le cœur, ce n'est pas l'âme, hein, c'est autre chose encore. Alors j'ai décortiqué ça, j'expliquais ça, afin que nous puissions visualiser ça, afin de pouvoir bien nous attaquer à nos problèmes avec les bons principes, les bonnes armes, la bonne connaissance, celle qui vient de Jésus, non pas de la psychologie. Ça ressemble à de la psychologie, mais le plus grand psychologue, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Ce matin, psy, ça veut dire âme. Hein? Alors voilà. Ce matin, je voudrais vous parler du deuxième commandement de Jésus. On le trouve dans Matthieu, au chapitre 22, verset 37, 40. Alors, 22, 37, 40. Donc voilà, on va commencer déjà avant, au verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. C'était deux groupes religieux qui se crêpaient le chignon. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Hein, c'est jamais gentil. Maître, les juifs. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Comme s'il ne le savait pas. Hein? Mais voilà, il voulait le mettre à l'épreuve. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Dieu bénisse ces paroles et qu'on puisse bien les comprendre, parce qu'il faut les comprendre avant de pouvoir les mettre en pratique. C'est ça le truc. Voilà le second commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Ça fait plus de 2000 ans qu'on entend ça. Et on l'a tellement entendu qu'on n'entend plus. C'est un petit peu comme quand on est assis à la fenêtre et qu'on écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur nos carreaux. Gna 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 gna. On s'endort. On entend ces choses et on s'endort. Parce que, voilà, on les a tellement entendues. Pourtant, aimer Dieu et aimer notre prochain comme soi-même, c'est le plus important dans la vie d'un disciple de Jésus. On ne peut pas prétendre être disciple de Jésus si on n'aime pas notre prochain. C'est vrai ou pas? Vous pouvez aller donner votre vie pour les petits noirs d'Afrique, ça ne coûte pas bien cher, surtout pour nous, Européens. Hein? Mais si on n'aime pas notre prochain, c'est-à-dire celui qui est tout proche, là, qui nous casse les pieds, eh bien là, c'est difficile de plaire à Dieu. C'est vrai, hein? C'est vrai. Et là, je vois que il y a donc une hiérarchie. Il y a deux commandements. Il y en a un qui lui est semblable. Le deuxième est semblable au premier. Mais une hiérarchie. C'est Dieu d'abord. Et ensuite, c'est le prochain. Et puis, s'aimer soi-même, Jésus le sous-entend comme une évidence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais voilà, ça paraît une évidence. Si Jésus dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est bien que nous nous aimons nous-mêmes, non? Bon, en général, les terriens, parce que moi j'estime que je ne suis pas d'ici, donc je ne suis pas un terrien, je ne suis pas d'ici. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, on est des extraterrestres. Hein? Alors les terriens, ils commencent par s'aimer eux-mêmes, et c'est la tendance la plus, disons, naturelle, s'aimer soi-même. La tendance la plus tenace, c'est de se satisfaire d'abord soi-même. Dieu n'a jamais dit, et je crois que personne n'a jamais dit aux gens, tu t'aimeras toi-même comme un commandement. Je ne crois pas. J'ai étudié pas mal de religions, mais je n'ai jamais lu ça, tu t'aimeras toi-même. Et pourtant, c'est ce que les terriens font, sans qu'on le leur dise, ils font que ça, en fait, ils s'aiment eux-mêmes. Les deux autres commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, bon, tout le monde connaît, mais on oublie vite, hein, ça c'est j'y pense, et puis j'oublie, et pense surtout quand même, voilà. Dieu et leur prochain. Dieu et leur prochain, c'est des étrangers, c'est des lointains étrangers. Et voilà pourquoi, c'est bizarre, hein, mais voilà pourquoi ils ne peuvent pas s'aimer eux-mêmes. Comme les gens ne s'aiment pas eux-mêmes, eh bien, ils sont horribles avec les autres. Ça semble contradictoire, ce que je vous dis, parce que là, je viens de vous dire que les gens s'aiment plus eux-mêmes qu'ils n'aiment Dieu et qu'ils n'aiment leur prochain, et puis juste après, je vous dis qu'en vérité, les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Ça semble contradictoire. Alors, on va voir un peu cela. Les gens s'aiment, mais ils ne s'aiment pas bien. Ils s'aiment mal. C'est ça le truc. Ils s'aiment mal. Dites-moi comment un ivrogne s'aime lui-même. Il bousille ses cellules, il le sait. Mais il continue. Il continue. Dites-moi comment un fumeur s'aime lui-même. Il aime. Est-ce qu'il aime ses poumons? Madame Michaud l'a retrouvé dans les pantalons de quelqu'un là, des dissidents, un mégot de cigarette. Est-ce qu'il s'aime lui-même? Est-ce que cette personne s'aime? Non. Il est en train de bousiller ses propres poumons. C'est quoi comme amour ça? Dites-moi comment un glouton s'aime lui-même. Je dis ça parce que Michaud a fait la lessive de tout le monde. Vous ne savez peut-être pas, mais Michaud a fait la lessive de tout le monde depuis des années. Des années. Ça, c'est de l'amour, hein. Dites-moi comment un glouton s'aime lui-même. Il charge son estomac de nourriture indigeste et souvent malpropre. Et puis, il devient gros comme une vache. Merci Robert pour la bonne poudre que tu m'as donnée qui m'a fait perdre 13 kilos de cochonnerie. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien les plats en sauce et tout ça. Mais c'est pas de s'aimer soi-même que de bouffer comme ça. C'est terrible, hein. Alors, il ne faut pas oublier que notre corps, c'est un peuple de cellules avec des fonctions bien définies. C'est un peuple. On trouve dans ce peuple de cellules dont nous sommes formés des soldats, des médecins, des architectes, des électriciens, des pharmaciens, exactement comme dans la société. Il faut que vous pensiez ça comme ça. Les uns protègent l'organisme, les autres font des réparations. Hein, vous avez vu, on se coupe et hop, toutes les cellules travaillent, les anticorps, les machins, et ça devient une cicatrice et tout. On n'y fait rien du tout. C'est à l'intérieur que ça se passe. On a un peuple de cellules qui sont fantastiques. Dieu nous a créés d'une façon fantastique. Et nous, nous sommes quoi, nous? Nous sommes le roi de ce peuple de cellules vivantes. Un peuple qu'on ne connaît pas. Un peu comme certains de nos chers ministres qui n'ont jamais pris le métro, qui ne connaissent pas le prix de la baguette de pain, qui ne savent même pas combien on a de porte-avions. Et certains députés qui ronflent, n'est-ce pas, ou qui lisent le journal ou des bandes dessinées à l'Assemblée. On ne connaît pas vraiment nos cellules. Et les cellules, ce peuple de cellules qui habitent en nous, qui sont nous, se plaignent sans cesse de ce roi que nous sommes, de ce président ignorant que nous sommes, qui est injuste, qui est incapable de gouverner. Pourquoi est-ce qu'il est incapable de gouverner, ce président, ce roi? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas gouverner ce peuple? Parce qu'il ne sait pas se gouverner lui-même. On ne sait pas se gouverner soi-même. C'est pourquoi la Bible dit qu'un des fruits de l'Esprit, un des résultats du Saint-Esprit dans une personne, c'est la maîtrise de soi. D'être maître, d'être le roi de sa vie. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et cette image, nous la manifestons par l'intermédiaire de notre esprit. C'est notre esprit qui est la force, c'est notre esprit qui est le roi. C'est même pas notre âme. C'est même pas notre cœur. C'est même pas notre intelligence. Si c'était notre intelligence, mais je connais des gens très intelligents qui détruisent leur corps avec de l'alcool, avec de la fumée, avec toutes sortes de cochonneries. Notre âme, notre cœur, notre intellect, tout ça, c'est... Je vous enseignais ça vendredi passé. Il faut que ça... Tout cela, il faut que cela aime Dieu. Quand tout cela aime Dieu, alors ça peut commencer à aller. Donc, s'aimer soi-même, c'est aussi aimer notre corps, s'éveiller sur lui, non seulement parce qu'il peut être un instrument de plaisir, ou parce qu'il peut être un instrument de séduction. Ça, c'est bête et méchant. C'est le béaba. Mais s'aimer soi-même, c'est penser avec reconnaissance que ce sont nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche, nos mains, enfin tous nos membres. Il faut penser avec reconnaissance au sujet de tous ces organes, ainsi que nos organes internes, de penser avec reconnaissance à tout ce qu'ils sont, à ce qu'ils nous permettent d'exprimer sur cette terre la présence de Dieu qui vit en nous. Avoir de la reconnaissance, hein, pour nos mains, comme Robert nous disait tout à l'heure, quand on a la main droite qui ne peut pas se fermer, on ne peut pas tenir un stylo, on ne peut pas écrire, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Mais quand tout va bien, on n'y pense pas. Bonjour ma main, lui dire bonjour. Hein, faites-vous plaisir, parlez-vous à vous-même et dites merci à votre estomac de bien fonctionner. Hein. Dites-lui, est-ce que vous avez déjà fait ça, hein? Ah, merci mon intestin, tu marches bien. Merci mon odorat qui marche bien. Vous savez que si vous n'avez pas d'odorat, vous n'avez pas de goût. Hein, une bonne raclette, quand on n'a pas d'odorat, c'est épouvantable. Pas de goût, manger une bonne raclette, vous avez l'impression de manger un pneu. C'est horrible. Alors, regardez les terriens. Par leur façon de vivre, par leurs pensées, par leurs sentiments, par leurs désirs, ils passent une grande partie de leur temps à se détruire, en fait. Ils ne s'aiment pas. Ou plutôt, comme je le disais, ils s'aiment mal. Ils veulent une satisfaction facile, rapide, tout de suite. Et s'ils s'aiment mal, comment peuvent-ils aimer correctement les autres? Ah, voilà où est le problème. Voilà où est le problème. Alors me direz-vous, mais que faut-il faire pour s'aimer soi-même? Ben, la réponse, elle est dans le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. C'est là, à partir du moment où Dieu est numéro un dans notre vie, alors les choses se mettent en place. Mais tant que Dieu n'est pas numéro un dans notre vie, ben, les choses ne sont pas en place. Tu ne peux pas t'aimer toi-même, tu ne peux t'aimer toi-même que si tu n'as pas d'abord appris à aimer Dieu. Je dis bien appris. Car en aimant Dieu, tu aimes forcément quoi ? Ton moi supérieur, c'est-à-dire ce qui est supérieur en toi et non pas ce qui est inférieur. Ton simple plaisir, ton simple désir du bonheur immédiat, de bouffer un gros Big Mac bien gras et de l'arroser avec une bière bien verte. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de temps en temps, mais il ne faut quand même pas bouffer que ça. Hein. En aimant Dieu, tu aimeras forcément ton moi supérieur. Tu aimeras cette parcelle de toi qui est divine. Aimer Dieu, ce n'est pas aimer un être qui est extérieur à nous. Trop de chrétiens aiment Dieu qui est au ciel. Bien sûr, notre Père qui est aux cieux, bien sûr, il remplit tout, il est partout, Dieu est partout. Mais oh, avant tout, il est en toi. Alors, aimer Dieu, ce n'est pas aimer Dieu qui est loin, qui est à l'extérieur de toi. Aimer Dieu, c'est aimer Dieu qui est en toi. Aimer Dieu, c'est aimer un être qui habite en toi. Si nous ne l'aimons pas, si nous n'aimons pas Dieu en nous, c'est notre moi inférieur qu'on va aimer. C'est tellement logique, mais il faut le dire. Il faut le dire. C'est notre moi inférieur que nous servons. C'est à lui qu'on consacre notre temps, à cet être inférieur. C'est à notre être inférieur qu'on consacre toutes nos énergies, vous voyez mes frères et sœurs. Et que fait-on quand on aime notre moi inférieur ? Nous nous appauvrissons. Nous nous affaiblissons. Parce que notre moi inférieur, c'est un gouffre qui engloutit toutes nos énergies. Voilà pourquoi, quand ça ne va pas bien dans la tête, on se sent raplapla. Parce que notre moi inférieur, c'est un gouffre qui engloutit toutes nos énergies. Le véritable amour de soi passe nécessairement par l'amour de Dieu d'abord. En aimant Dieu, c'est nous que nous aimons. Bizarre, hein ? En aimant Dieu, c'est nous que nous aimons. Grâce à cet amour véritable pour Dieu, nous nous élevons jusqu'au royaume de ce qui est beau, de ce qui est lumineux, de ce qu'est la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas de dire « je peux faire ce que je veux, je peux bouffer ce que je veux, je peux fumer ce que je veux, je suis libre ». Non. Et alors à ce moment-là, nous sommes en conformité, en cohérence avec le deuxième commandement. Quand on a appris à aimer Dieu qui vit en nous, on s'aime soi-même d'un amour divin, pas d'un amour stupide, égoïste, pas d'un amour déréglé. Et alors, on peut envisager d'aimer notre prochain comme soi-même, mais pas avant. Pas avant. Jusque-là, notre soi-disant amour pour notre prochain, c'est ridicule. Et même, je dirais que notre amour pour notre prochain, il peut être dangereux pour notre prochain. Regardez où on en est arrivé dans ce pauvre monde. Certains tuent par amour pour Dieu. Vous voyez jusqu'à quel point on peut arriver ? C'est un amour démoniaque. Et pourtant, ils donnent leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne donnent pas leur vie. Ils ne donnent même pas leur dîme. Ils ne donnent même pas leur... rien. Eux, ils se font sauter sur la place publique.
par amour pour leur Dieu, mais c'est démoniaque. Et c'est normal que des gens sensés ne veulent plus entendre parler de Dieu quand ils voient des chrétiens froids, tièdes, et quand ils voient des fous de Dieu qui se font exploser, qui tuent au nom de Dieu, ce Dieu qui a été et qui est encore un prétexte pour mener des guerres saintes. Comment voulez-vous que les gens sensés aiment un tel Dieu? Alors certains abandonnent Dieu, et puis alors ils se mettent à insister sur le respect de la personne humaine. C'est très joli, mais c'est impossible de respecter la personne humaine si vous n'avez pas de considération pour quelque chose de supérieur qui habite dans cette personne humaine. C'est pas possible. Ou alors faut être très superficiel, ou alors faut pas vraiment fréquenter les gens, faut juste les croiser dans le couloir, ou alors dans l'église, et puis on se tourne à gauche, à droite, puis on dit « je t'aime de l'amour du Seigneur », c'est tellement facile, ça coûte rien. Hein? Si vous ne connaissez pas Dieu, si vous ne voyez pas Dieu, si vous ne considérez pas Dieu dans chaque personne, votre nature inférieure vous fera vite oublier de les respecter, et elle aura raison. C'est la nature inférieure. Parce que tous ont des côtés mauvais qu'on ne peut pas aimer. Moi, en moi, il y a des trucs mauvais que je déteste. Pas vous. Puis alors les autres, ben, c'est pareil. On ne peut pas aimer les côtés mauvais des gens. C'est seulement quand vous respectez quelque chose de plus grand que la personne humaine que vous respectez aussi la personne humaine. Sinon, c'est pas possible. Venez pas me raconter des histoires et me faire des poésies évangéliques. C'est pas possible. Il y a des gens, il y en a un là, un pasteur qui m'a dit, Michel, il faut que tu pardonnes. Alors j'ai dit, ah oui, oui, t'as raison, ça c'est vrai. Je dis, mais c'est pas difficile de pardonner. Ce qui est difficile, c'est de vivre avec des gens comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lui, il vit pas avec ses chrétiens. Par contre, il en a plein qu'il a viré, 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 next, next, next. Puis quand on le fait parler à ce sujet, il est rempli de haine. Il vient me faire la morale, il faut que je pardonne. Mais c'est pardonner. J'ai pardonné mes ennemis. Simplement, je ne veux pas vivre avec. Est-ce que j'ai le droit de dire, bon, là, il y en a marre. On me fout une baffe sur la joue gauche, sur la joue droite, sur la joue gauche, sur la joue droite. Ben, je les aime, je les pardonne. Mais maintenant, j'aimerais m'éloigner un peu. La terre est grande, non? C'est pas ne pas les aimer, c'est simplement dire, bon, j'ai fait mon expérience, je vois que ce n'est pas possible. Ils ne veulent pas changer. Moi, je pardonne, volontiers. Pas de problème. On l'a prouvé, hein. On l'a prouvé. Même financièrement, on a remis leurs dettes, etc., etc. Bon, si on n'apprend pas à aimer Dieu d'abord, on ne saura pas comment aimer les gens. Parce que tout cet amour sera sans intelligence, il ne sera pas éclairé. Vous voyez? Vous savez, on ne doit pas trop faire confiance à notre cœur. Notre cœur, c'est un quart de nous-mêmes, mais ce n'est pas tellement la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est l'esprit. Parce que notre cœur, il ne contient pas que des bonnes choses. Il faut arrêter de faire l'hypocrite et de dire « je suis chrétien, toute ma vie a changé ». Ouais, l'autre jour, j'ai un frère qui vient vers moi et me dit « oh, j'ai évangélisé à telle et telle personne, mais elle est complètement changée. Ouais, ça fait 3 jours, elle est complètement changée. » Je le regardais, je lui dis « ah, gloire à Dieu ». Mais en moi-même, je disais « mais quelle nouille ». Pardon, mais vous avez déjà vu quelqu'un qui est complètement changé? Pardon, c'est un travail de toute une vie, avec l'aide de Dieu. Et on s'accroche, des fois on retombe, puis on se relève. Hein? Non? Oui? Arrêtez de jouer les super saints, là, ça m'énerve, ça. C'est pas vrai, c'est du charabia évangélique à la noix de coco 2 balles. Notre cœur ne contient pas que de bonnes choses, il contient aussi une part de violence, on a tous ça en nous qu'on doit maîtriser avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Le cœur de l'homme, c'est un peu comme une caverne obscure, d'où peuvent sortir parfois des monstres de bêtises phénoménales. C'est rarement de la méchanceté chez les chrétiens. Je ne connais pas un chrétien qui ait été méchant avec moi. Pas un seul. Mais alors des imbéciles, de la bêtise, alors là, mon Dieu, oui. C'est de la bêtise, mais la bêtise rend méchant. Mais c'est de la bêtise la plupart du temps. Manque de connaissance des choses, manque de connaissance de la situation, manque de connaissance, manque de renseignements, manque de... voilà. Alors, il faut souvent purifier notre cœur, éclairer notre cœur, et ça, on ne peut le faire que si nous tournons nos yeux vers Jésus, avoir un temps chaque jour avec Jésus en tête à tête, vraiment. Quand on pense aux créatures, il ne faut jamais oublier leur créateur. Ça nous aide à conserver la bonne orientation. Vous voyez, mes frères et sœurs? Sinon, comment est-ce que vous voulez aimer des créatures qui sont tellement inférieures au Créateur? C'est pas que Dieu les a créées inférieures, mais ils sont tombés. Nous sommes tous tombés, nous sommes nés dans le péché. D'accord? Ce qui fait que la nature humaine est souvent mesquine, intéressée, jalouse, teigneuse, hypocrite, fauchetonne, stupide, fanfaronne, hautaine, susceptible, médisante, cruelle, ingrate, soupçonneuse, bref, charnelle. Même les chrétiens. Allons, 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 allons. On ne le peut pas. Aimer ça, on ne peut pas. Aimer quelqu'un qui nous soupçonne, aimer quelqu'un qui est teigneux, aimer quelqu'un qui est hypocrite, aimer quelqu'un... J'ai essayé, hein. Ben, j'ai eu des problèmes. C'est simple. Si vous oubliez que c'est Dieu qui les a créés, il y a deux possibilités. Ou bien votre amour sera si peu éclairé que vous leur ferez du mal, ou bien c'est vous qui allez être malheureux. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut que Dieu soit là en premier dans votre vie. C'est pourquoi il faut vraiment avoir cette communion avec Dieu, tout le temps. Et c'est ça, c'est pourquoi on doit rechercher la communion avec Dieu. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Je sais vraiment de quoi je vous parle. Hein. J'ai bientôt 66 ans, je sais de quoi je vous parle. J'en ai vu toutes les couleurs, je sais de quoi je vous parle. Alors, c'est une décision à prendre devant Dieu. C'est une décision à prendre. Bon, je vais l'aimer. Dieu l'a créé, Dieu a voulu qu'il soit sur mon chemin, il agit pas de la bonne manière, il me fait du mal, mais bon, je décide de l'aimer. C'est le deuxième commandement de Jésus, et par amour pour Jésus, mon Créateur, je vais obéir et je vais l'aimer. Amen. C'est une décision, si on prend pas au moins cette décision, comment voulez-vous? Puisque Jésus dit « Aime ton prochain », c'est un commandement. Prends la décision d'obéir. Aïe, aïe, aïe. Bon, cette décision, elle est complètement à l'opposé de votre nature inférieure, c'est sûr. Mais dis donc, c'est qui ton Seigneur? C'est Jésus ou c'est ta nature inférieure? C'est ça la question. C'est qui ton Seigneur? Quand je vous parle, je me parle. Ne pensez pas que je suis en train de vous faire la morale, je me parle à moi-même parce que je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis qu'un pauvre pécheur sauvé par grâce, comme disait Violette. J'ai les mêmes besoins que vous, j'ai les mêmes attentes que vous, j'ai les mêmes désirs que vous. Je suis aussi stupide que vous, je peux être aussi méchant que vous. On est des êtres humains, il faut le reconnaître. Qui est mon Seigneur? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est ma nature faible? La chair est... faible. On le sait, Dieu nous a avertis. Il ne nous dit pas ta chair est faible, tu vas voir, je vais te punir. Non, il nous dit ta chair est faible, tiens compte de ce que je te dis, fais attention et sois dirigé par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Amen. Vous voyez, on ne peut pas aimer un ennemi sans faire le choix de l'aimer. Aimer un ennemi, ça ne signifie pas lui faire 100% confiance. Pas du tout. C'est pas se mentir à soi-même en disant « Oh, cette sœur, elle est adorable !» Mais c'est pas ça du tout. C'est pas vrai, elle est pas adorable. Mais vous pouvez faire le choix de l'aimer. C'est juste l'aimer parce que Dieu l'aime et parce que Dieu veut que vous l'aimiez. C'est tout. Mais c'est pas vous mentir à vous-même en disant des mensonges. Vendredi, on parlera encore de ça si Dieu nous prête vie. aimer son prochain. C'est pas seulement se dire oh, je veux l'aimer. C'est pas seulement dire je l'aime. La vraie chose, c'est de savoir, c'est un savoir. La vraie chose, c'est de savoir ce qu'on va aimer dans notre ennemi. Et ce qu'on va nourrir dans notre ennemi. Je vous donne un exemple. Quand on se fâche avec une personne qui nous nargue, vous savez, les personnes qui vous narguent, ça vous en connaissez pas? Quand on se fâche et qu'on engueule une personne qui nous nargue, qu'est-ce qu'on nourrit dans cette personne? On nourrit sa nature inférieure. Après, elle va aller partout pour dire « Ouais, je me suis encore fait engueuler, c'est pas juste, gna 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 gna. » Vous comprenez? Et puis, ça va faire que de s'amplifier. Vous voyez? Or, nous avons tous une nature inférieure. Vous, autant que la personne qui vous nargue, vous avez aussi une nature inférieure. Vous et moi, nous en avons une. Alors, ceux qui nous énervent, qui nous narguent, qui nous accusent, ils ont une nature inférieure aussi. Et quand on rend le mal pour le mal, qu'est-ce qu'on nourrit? La nature inférieure, leur nature inférieure. Et puis la nôtre aussi, évidemment. Qu'est-ce que Jésus dit? Ne rendez pas le mal pour le mal. Pourquoi il dit ça? Pour nous embêter? Pour nous rendre la vie difficile? C'est tellement plus facile de lui foutre mon poing dans la gueule à cette espèce de... Mais oui, c'est facile. Ouais, mais ça, c'est... Même les animaux font pas ça. Vous voyez? Quand on rend le mal pour le mal, qu'est-ce qu'on nourrit? On nourrit la nature inférieure. Et c'est l'escalade de la chose inférieure. Ça devient de pire en pire. On rend nos ennemis plus forts contre nous. C'est idiot. Mais qu'est-ce qu'on fait tout le temps?
Ça.
Parce qu'on manque de spiritualité. C'est parce qu'on manque de spiritualité. Mes frères et sœurs, vous savez, avec la Michou, on en a aidé des gens. Et parfois, on a été déçus par ces gens. Pas au début, c'est en général quand tout va bien, hein, quand tout ça va bien pour eux, là, quand ils commencent à... Voilà, alors. Et une fois, je me suis entendu dire, après tout ce qu'on a fait pour eux, mon Dieu, j'ai réfléchi à ça, et c'est une phrase qu'on entend, beaucoup de gens disent un jour ou l'autre dans leur vie, mais après tout ce que j'ai fait pour eux. Alors je me suis dit, eh ben, finalement, avant de me sacrifier pour eux, j'aurais dû me demander qu'est-ce que je servais en eux. Leur nature inférieure ou leur nature supérieure. Par exemple, on a aidé des gens qui étaient pauvres. On les a aidés en disant, on va payer ton loyer à ta place, on va payer ta bouffe à ta place pendant des semaines, des mois, des années. Mais ça, c'est aider leur nature inférieure. Pourquoi? Parce que c'est des flemmards. Ils ont qu'à se bouger, ils ont qu'à aller bosser, ils ont qu'à se lever un peu plus tôt, ils ont qu'à faire un travail qui... Vous voulez aider quelqu'un qui est buté, vous allez faire quoi? Vous allez nourrir son côté inférieur. Il ne faut pas l'aider, c'est malheureux à dire. Le meilleur moyen de l'aider, c'est de ne pas l'aider. Vous voyez? Aider un profiteur, quelqu'un qui profite. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent d'Afrique. Hein, Michel, frère Michel et tout. Mais c'est des paysans qui ont des terrains et tout. Alors au début, moi, je pensais qu'ils travaillaient, puis que bon, il y a manque de peau. Il y avait la pluie ou il n'y avait pas la pluie. Il y avait ci ou il y avait ça. Ils me racontaient des histoires. Je me suis renseigné, je me suis aperçu que c'était des gros flemmards qui n'en foutaient pas une. Mais j'ai coupé les vivres. Le meilleur moyen de les aider, c'est de couper les vivres. Parce que sinon, on nourrit leur nature inférieure. Et ils disent, il y a le blin qui donne toujours l'arzin. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Ça arrive entre parents et enfants, ça aussi. Les parents qui donnent tout à leur enfant pour les satisfaire, mais aussi pour s'en débarrasser un petit peu, parce que il me gonfle, alors je lui offre le jeu, machin, comme ça, il me fout la paix, il est des heures devant ce jeu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de satisfaire en eux? Ils satisfont quoi? Ils satisfont la nature inférieure de leurs enfants, très souvent. leur goût du plaisir, leur goût du confort, leur goût de l'argent, etc., etc. Et après, les enfants, ils grandissent. Et ils se montrent ingrats. Mais c'est normal, puisque c'est la nature inférieure qui a grandi. Et dans la nature inférieure, il y a quoi? Il y a plus d'ingratitude que de gratitude. Alors les parents se lamentent. Oh, ils ne se souviennent pas de tout ce que j'ai fait pour eux. En fait, ils ne se sont pas rendus compte que c'est eux-mêmes qui les ont poussés dans cette vie inférieure. Et moi, je reconnais, ici, dans la communauté, on a poussé des gens dans leur vie inférieure. On a aidé leur nature inférieure à se développer. Et puis voilà ce que ça a donné. C'est ma faute. Donc, qu'est-ce que j'ai à me plaindre? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, nous dit la Bible. Oui ou non? Alors, le véritable amour, c'est celui que Jésus enseigne. Et cet amour-là, il consiste à nourrir chez les autres uniquement leur nature supérieure, afin d'être établi dans la royauté de leur esprit, afin que ça soit leur esprit qui devienne roi de leur vie à eux. On va lire un texte dans 2 Thessaloniciens, j'ai bientôt fini, hein, 2 Thessaloniciens 3, 10. On va commencer au verset 10. Lorsque nous étions chez vous, c'est donc Paul qui parle aux gens qui habitent la ville de Thessalonique, et il leur dit, lorsque nous étions chez nous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est pas gentil. Hein, une sœur qui part travailler à 11h le matin puis qui revient à 3h l'après-midi, ben voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler, ben il ne faut pas qu'elle mange. Mais c'est pas gentil, tu dois faire accueil à ceux qui sont faibles, tu ne dois pas faire de différence entre les gens, tu dois donner à tout le monde, et tout ça c'est l'amour. Ben non. Mais vu l'apôtre Paul là, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Attendez, nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. C'est quoi une vie désordonnée? Ben c'est justement de bosser au petit bonheur là, ou n'importe comment, voilà. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. C'est-à-dire, c'est pas nous, on ne va pas vous entretenir. Vous voyez, mes frères et sœurs. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui. Ah ! Ne négligez pas de faire le bien, n'ayez plus de relation avec cette personne-là. C'est ça, faire le bien. Amen ! Vous voyez, on est déséquilibré avec cette histoire d'amour bisounours. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Les bisounours, à côté des chrétiens, c'est des terroristes. Les bisounours, c'est des super mollassons du cerveau, de l'intelligence. On nous rabâche des histoires d'amour qui, ça n'existe pas. L'apôtre Paul dit, vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, notez-le, n'ayez plus de relation avec lui. C'est ça, faire le bien. Wouh! C'est fort, n'est-ce pas? Afin qu'il en éprouve de la honte. De la honte. On a été tellement bêtes, ils n'ont aucune honte. Ne le considérez pas comme un ennemi. Eux nous considèrent comme des ennemis, bah, pas nous. Ne les considérez pas comme des ennemis, mais avertissez-le comme un frère ou une sœur. Pensez à notre sœur Osborne qui dit que les hommes et les femmes sont égaux. Donc si c'est écrit frère, c'est aussi bon pour les sœurs. Vous voyez, mes frères et sœurs, il faut de l'ordre. On y reviendra. Pensez-y, pensez ces choses, méditez ces choses. Exercez-vous pendant la semaine qui vient à faire ce que Jésus vous enseigne à faire ce matin. Nourrissez chez les autres leur côté supérieur et non pas leur côté inférieur. Ne rendez pas le mal pour le mal. grandissez dans cette forme de vie, d'amour. C'est le seul christianisme qui soit vrai. Amen. Seigneur Jésus, je te demande de nous rendre intelligents par ton esprit et je te remercie de nous donner de l'équilibre, que nous ne soyons pas déséquilibrés, mais que nous écoutions les conseils que tu nous donnes et que nous donnent les apôtres et que tu nous donnes au travers encore de ce message, que nous puissions faire le choix d'aimer nos ennemis réellement, d'être gentils, d'être polis, mais de ne pas nourrir leur nature inférieure. Merci Seigneur Jésus pour cela. Que ton nom soit béni et glorifié au travers de nos vies. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça va?
Oui.
Vous avez bien compris? C'est clair, hein? Je crois que c'est difficile d'être plus clair. Voilà, eh bien, nous allons louer le Seigneur. On va chanter un peu. Quelle heure est-il là? C'est déjà 11h28. J'étais plus long que d'habitude, hein? Alors, au revoir mes frères et sœurs qui êtes sur le net. Que Dieu vous garde dans sa paix et à bientôt. Priez pour nous. Amen.